Donc la première façon de prétendre simplifier et résoudre l'aporie de la représentation, c'était donc de constituer un peuple homogène qui permettait d'annuler la distance entre peuple social et peuple corps civique. La deuxième façon va consister à redéfinir la nature même du lien représentatif. Cette redéfinition du lien représentatif va être le passage d'une conception de la représentation comme délégation à une représentation conçue comme identité. La première forme de pathologie de la représentation que nous avons précédemment analysée est celle de la simplification du peuple, de telle sorte que puisse être résorbé cet écart entre le peuple social et le peuple corps civique et que prenne figure le peuple introuvable. Simplification qui était soit opérée sous la forme d'une réduction sociologique de la diversité existante, la poursuite de l'homogénéité, soit dans certains cas sous les espèces de l'érection d'une fiction politique, celle du peuple unanime. Et la seconde forme de pathologie de la représentation résulte quant à elle d'une simplification du lien représenté-représentant, sous la forme d'une incarnation du premier par le second. La séduction opérée par une telle représentation-incarnation s'est enracinée devant le constat tôt effectué de la distance entre les élus et les électeurs que creusaient les organes censés médiatiser leurs relations, les comités électoraux puis les partis. Pour prendre la mesure du phénomène, il faut rappeler deux choses. La première est d'ordre intellectuel, si l'on peut dire. C'est le fait d'abord que la question n'avait pas été réfléchie du tout par les pères fondateurs des régimes représentatifs modernes, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Angleterre. L'élection se limitait en effet alors à une sélection d'individus connus de leur père, choisis pour leur qualité personnelle. Il y avait entre eux un lien de proximité qui était de nature sensible. Et l'établissement d'un rapport de confiance, qu'il soit fondé sur le respect ou sur le sentiment d'une communauté d'intérêt et de sentiment, se faisait de la sorte naturellement. L'élection s'effectuait par ailleurs dans des circonscriptions de petite taille, avec un nombre limité d'électeurs, soit que le suffrage ait encore une dimension censitaire, c'était le cas anglais ou français, soit que le pays compte peu d'habitants, cas des États-Unis. Rappelons qu'au moment de la Révolution américaine, le pays n'a que 2,5 millions d'habitants. L'établissement progressif du suffrage universel va complètement changer les données du problème au XIXe siècle. La première grande élection au suffrage universel de l'histoire est celle du 23 avril 1848 en France, qui suit la Révolution de février. Et nombreux étaient alors ceux qui pensaient que la démocratie est en conséquence arrivée à destination, qu'elle avait trouvé sa forme évidente et définitive. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, du gouvernement provisoire, Ledru Rollin, disait « La science politique est achevée maintenant. La République a programmé le principe de la souveraineté de tous. Cette science politique sera désormais d'une application grande et simple. Il ne s'agira que de convoquer le peuple par grande masse, le souverain tout entier, et d'invoquer le consentement unanime dans ces questions où la conscience populaire parle avec tant d'éloquence et d'ensemble par acclamation. » Bien sûr, ce présupposé d'une expression unanime volera rapidement en éclat, l'élection 6 mois plus tard du président de la République au suffrage universel faisant l'objet d'une compétition fort disputée. Mais le présupposé d'une organisation simple s'évanouira aussi rapidement. Le nouveau corps électoral comportait en effet plus de 8 millions de membres. 7 millions iront aux urnes. Il était vite apparu que passer d'un corps électoral d'une telle dimension, c'était inédit dans l'histoire, à la nomination de quelques centaines de députés nécessitait des médiations. L'introduction du nombre au suffrage universel dans la mécanique de l'État pourrait être comparée, attendu à l'époque, à l'introduction de la vapeur dans la mécanique de l'industrie. C'est ainsi que se formèrent presque partout des comités électoraux, à l'initiative des journaux locaux ou de groupes de notables. Tous les électeurs avaient été en principe invités à participer à ces comités électoraux pour désigner les candidats. Mais cela n'avait pas été sans créer interrogation et irritation, tant la réalité s'était avérée moins transparente. La première fois que vous exercez votre droit politique, avait par exemple Tempété l'amené, on vous assemble d'autorité. On vous met dans la main une liste que vous n'avez ni discutée ni même pu lire et l'on vous dit impérativement « jetez cela dans l'urne ». On fait de vous une machine à l'élection, je ne sais quoi de semblable, au singe de la foire dressé par des bateleurs à tirer des billets du fond d'un bonnet. Certains, en 48, c'est une expression qu'on voit souvent, s'étaient même insurgés de voir les électeurs traités comme du bétail à voter. Il y a bien, en effet, toujours un problème de régression, au sens mathématique de l'expression, de la qualité démocratique d'une procédure, dès lors qu'intervient ce qu'on peut appeler un tiers organisateur. Si la démocratie consiste à donner à chacun la participation de s'associer et de participer à un choix, il faudra en effet logiquement que les conditions de détermination des termes du choix à effectuer aient eux-mêmes été effectuées démocratiquement et que l'organisation de cette détermination l'ait également été, ce qui est impossible. Il y a ainsi toujours à l'origine un premier interface indépendant. Mais le problème n'est pas simplement technique, logique. Il faut en effet ainsi qu'existe un tiers, un événement qui rompt une histoire ou une initiative organisée pour que s'exprime une volonté. Il n'y a jamais de volonté pure, comme s'il s'agissait d'une propriété donnée, d'un individu ou d'un groupe, dont le caractère problématique résiderait seulement dans les conditions d'exercice et non dans l'objet. Une volonté apparaît en effet toujours comme une réponse, une adhésion ou un refus. Elle n'existe que sous les espèces d'une action, qu'il s'agisse d'une protestation ou d'un contrat. Il n'y a de volonté que réflexive, en d'autres termes. Il y a pour cette raison toujours un tiers interpellateur, organisateur, même s'il n'existe parfois que de façon masquée et cachée. Et le mouvement d'universalisation du suffrage, spécialement dans la deuxième moitié du XIXe siècle, va ainsi mécaniquement se lier partout à la formation de comités électoraux ad hoc d'abord, puis ensuite de partis politiques structurés. Institution à la fois devenue techniquement indispensable et simultanément accusée de tendre à confisquer la volonté générale. Institution à la fois démocratique, en participant à la structuration et à l'organisation de l'opinion et des groupes sociaux, et oligarchique, en donnant le pouvoir à des machines. La science politique naissante va d'ailleurs faire de l'analyse de leur rôle et de leur perversion son premier objet. Quelques grands classiques en sont issus, notamment le livre d'Ostrogorski, qui est le premier, La démocratie et les partis politiques, en 1902, qui, lui, a analysé les cas anglais-américains. Il a montré comment les partis sont constitués comme des machines complexes qui requièrent l'intervention de permanents et de politiciens professionnels qui finissent par se constituer en puissance autonome et parasitaire. Étudiant, lui, la social-démocratie allemande, Roberto Michels conclura qu'il existe en fait ce qu'il appelle une loi des reins de l'oligarchie dans les grandes organisations. Et parallèlement à ses travaux scientifiques pionniers de sociologie politique et de sociologie des organisations, on voit partout fleurir, à partir des années 1880, les années de diffusion du suffrage universel en Europe, une littérature satirique de dénigrement caustique qui monte en puissance et qui exprime un sentiment antipolitique, antiparlementaire à cette époque. D'où le sentiment souvent exprimé, et l'expression est partout à l'époque, d'une crise de la représentation. Les mouvements dont seront issus les régimes totalitaires exploiteront de façon systématique ce sentiment de crise de la représentation et prétendront être capables d'apporter une réponse aux apories qui la constituaient. Ils ne sont intellectuellement compréhensibles qu'en étant restitués dans le cadre donc de la critique du parlementarisme et de la démocratie représentative qui s'était déployée depuis la fin du XIXe siècle. L'œuvre de Carl Schmitt est un bon observatoire de cette évolution. Et sa pensée, qui a évolué des années 1920 aux années 30, montre bien comment s'est opéré le passage d'une réflexion interrogative, certes suspicieuse, mais interrogative, sur les transformations de la démocratie représentative, un appel à son dépassement dans une perspective radicalement essentialiste, débouchant sur une théorie de la représentation-incarnation. Dans un de ses premiers ouvrages, Parlementarisme et démocratie, qui est publié en 1923, Schmitt a inauguré sa réflexion en instruisant le procès du parlementarisme. Mais son analyse a vite tranché avec les anathèmes habituels. S'il déplorait sans surprise, comme tant d'autres à son époque, le caractère abstrait et réducteur de l'exercice du suffrage universel, accusé de privatiser et d'individualiser la vie politique, il n'en restait pas là. L'originalité de sa démarche a résidé dans sa proposition de distinguer conceptuellement démocratie et parlementarisme. Il définissait la première, la démocratie, par la recherche d'un principe d'identité entre gouverné et gouvernant, alors que le second, le parlementarisme, n'était fondé que sur une procédure d'autorisation, ayant pour but de rendre possible une discussion ouverte entre des représentants indépendants. Alors que la démocratie devrait s'efforcer de faire vivre le peuple en tant que puissance et unité, l'univers libéral ne satisfaisait pour lui que d'une souveraineté qui était donc fragmentée et limitée. Cette distinction des deux principes d'identité comme qualité sociale et de représentation comme procédure sera systématisée quelques années plus tard dans sa théorie de la Constitution. Pour Schmitt, on ne pouvait lier les deux éléments qu'à la condition de considérer la représentation comme étant le processus par lequel l'unité politique devenait incarnée dans la figure de l'État. La représentation démocratique, c'est l'expression qu'il emploie, consiste essentiellement ainsi en un travail d'incarnation, alors que la représentation libérale a simplement pour but de légitimer une délégation. Et c'est ainsi la figure simultanée, la célébration des figures simultanées de l'homme-peuple, de l'État-peuple et du parti-peuple qui vont être au cœur de la rhétorique totalitaire. Si l'identité d'être et de race constituait pour les nazis le peuple dans son unité vivante, ce dernier n'était pas pour eux séparé de l'État, qui se donnait comme le gardien et l'argent actif de cette identité. À la séparation structurelle du monde libéral se substituait donc l'unité conceptuelle et pratique du peuple et de l'État dans la vision nationale socialiste. Ce dernier pouvait, l'État pouvait se définir comme la figure et la forme du peuple politique. Peuple et État, écrivait un juriste de l'époque célèbre, sont comme l'essence et la forme, la teneur et la figure sont deux modes de présentation de la même substance. Pour s'accomplir pleinement, cette identité devait s'exprimer sous les espèces d'une action et d'une volonté immédiatement lisible et visible, prenant ainsi sa dimension proprement politique. C'est là que la figure du Führer jouait un rôle central. C'est en elle que se résolvait le dilemme de la représentation sur le mode d'une parfaite incarnation. C'est en lui que la puissance collective devenait réalité tangible. La volonté qui se forme dans le Führer, disait Lorenz, n'est pas la volonté personnelle d'un individu, mais la volonté générale d'une communauté. Une telle volonté générale n'est pas une fiction, elle est une réalité politique qui trouve son expression dans le Führer. Ce Führer, disait un autre chantre du régime, incarne la volonté de la totalité, la loi vécue de la communauté a acquis en lui chair et sang. Tandis que Schmitt parlait de présence réelle, parlait de contemporanéité immédiate. Il y a d'ailleurs, chez Schmitt, toute une utilisation, une remobilisation du langage théologique pour parler de l'incarnation politique. Il suggérait la constitution d'un signe efficace sur le mode de ce que sont théologiquement les sacrements dans le monde chrétien, à savoir des signes efficaces. Et on trouvait dans le fascisme italien une approche identique. Les députés n'y étaient considérés comme d'authentiques représentants du peuple que parce qu'ils étaient issus d'un suffrage dit organisé, ce qui voulait dire qu'ils étaient proposés par les instances fascistes et appelés à être plébiscités par les électeurs. C'est comme plus tard, sous le Second Empire, les électeurs qui étaient proposés par le régime. Et c'est la décision du parti qui faisait donc l'élection, qui n'était en fait qu'une ratification. Ce qui établissait le caractère démocratique d'une telle élection ne revêt donc que secondairement d'une qualité procédurale, qui était plutôt faible. L'essentiel résidait dans le fait que le parti disait avoir sélectionné des individus, je cite, « voisins de l'âme du peuple ». l'État était représentatif parce qu'il était en perpétuel contact avec les masses, qu'il savait en diriger les aspirations, les instruire, veiller à leurs intérêts. Et c'est en cette position fonctionnelle qu'il était véritablement populaire. C'est un État, je cite, c'est un État éminemment démocratique, en ce sens qu'il adhère étroitement au peuple, qu'il est constamment en contact avec lui, qu'il pénètre la masse par mille voies, la guide spirituellement, en sent les besoins, en vit la vie, en coordonne les activités. Et le parti était pareillement qualifié pour être le centre directeur et propulseur de toutes les activités, parce qu'il vivait la vie du peuple, en interprétait les sentiments, en formait la conscience civique. C'est ainsi sa parole qu'il l'établissait dans sa qualité. Ce parti-peuple ne pouvait là aussi se concevoir sans un homme-peuple qui en exprime de façon immédiatement sensible les qualités. Tous les grands mouvements, soulignait lui-même Mussolini, doivent avoir un homme représentatif qui puisse souffrir toute la passion de ce mouvement et emporter toute la flamme, même au prix de son sang. La pyramide de représentation qui attachait la société au pouvoir trouvait sur ce mode de l'incarnation sa garantie et sa vérité. Mussolini résumera l'un des idéologues du régime et, je cite, « un esprit privilégié et providentiel dans lequel la pensée s'incarne et vibre sans cesse. Il était bien le Duce, personne indissociablement éminente et quelconque, singularité et multitude en même temps, figure rigoureusement superposée à celle d'un tout un peuple. De telle sorte que les foules pourront l'acclamer dans les réunions publiques en lui lançant « Tuez-nous tous ». Comme si son pouvoir n'était que la projection du leur, la foi dans cette équivalence étant le ressort et le ciment du régime. C'est par elle, sous les espèces d'une identité substantielle, que s'abolissait l'antique distance du représenté et du représentant. « Je me sens à vous, chair de votre chair, esprit de votre esprit, je vibre de votre même passion » et je me nourris de votre foi, disait ainsi Mussolini pour fonder sa légitimité. Dans le monde communiste, la réalité de la démocratie devait pareillement se mesurer à l'aune de la nature de classe du pouvoir, et non en fonction de sa conformité à des critères procéduraux. Seul pouvait être qualifié de démocratique un système politique qui satisfaisait les immenses intérêts de la majorité, c'est-à-dire ceux de la classe ouvrière. La démocratie, en d'autres termes, est un concept social avant d'être un concept constitutionnel. Impossible donc pour les communistes, d'ailleurs, d'utiliser le même mot pour désigner deux réalités si différentes. Il n'y avait pas pour eux de démocratie en général, il n'y a pas de démocratie pure. Cette critique de la démocratie pure, c'est très fréquent sous la plume de Lénine. Et les communistes français opposeront même un moment dans cet esprit les deux termes de soviétisme et de démocratie, pour souligner l'impossibilité de parler au singulier de la question, avant d'en revenir d'ailleurs aux distinctions plus classiques démocratie bourgeoise, prolétarienne, formelle, réelle. La principale conséquence de cette définition sociale de la démocratie était, on le sait, d'amener à considérer, selon une célèbre formule, que la dictature du prolétariat était un million de fois plus démocratique que n'importe quelle démocratie bourgeoise, dans la mesure où elle représentait et défendait où était supposé représenter et défendre les intérêts du peuple. Et la vision soviétique de la démocratie radicalisait donc bien ainsi l'approche essentialiste du politique. Il y avait un double présupposé sociologique dans cette conception. Le premier était que la classe ouvrière et ses alliés, qui formaient le peuple, constituaient une écrasante majorité, alors que la bourgeoisie n'était composée que d'une mince couche d'exploiteurs. Le second était que ce peuple était essentiellement unique, il formait un groupe homogène. L'homogénéité du peuple, comme on l'a dit, était ce qui fondait l'évidence de ses intérêts et de sa volonté. Un théoricien marxiste du début du XXe siècle, c'est Max Adler, c'est un des grands noms du marxisme austro-hongrois, allait jusqu'à écrire sur cette base que, dans le sens rigoureux du terme, un peuple n'existe même pas dans un État capitaliste. Dans le monde communiste, la volonté générale ne résultait donc pas d'une arithmétique des préférences et des opinions individuelles prétendument exprimées de façon libre dans la procédure électorale. Elle était un fait social, une donnée historique, volonté objective d'une communauté unie et cohérente. Elle était donc d'abord susceptible d'être exprimée par ceux qui possédaient la connaissance du devenir de la société. Elle avait une dimension cognitive, objective, et ne pouvait résulter d'une entreprise mécanique et procédurale. Il n'y avait plus en effet de différence entre représentation et connaissance sociale dès lors que le peuple était véritablement un. Les positions des sujets se résorbaient alors dans ce cas complètement dans l'objectivité des situations. La vérité du tout et celle des individus se superposaient parfaitement. Les catégories d'opinion ou de préférence individuelle n'avaient plus aucune pertinence. Il était possible de donner dans ce cadre définitivement congé à la version libérale classique qui conçoit la société comme un entrelacs complexe de positions et d'intérêts également légitimes. C'est ce qui fondait aussi la justification du parti unique en tant qu'il n'était que la forme d'une classe elle-même objectivement homogène. Lénine pouvait ainsi écrire en 1920 « Classe prolétarienne égale parti communiste égale pouvoir soviétique ». La constitution soviétique notait d'ailleurs elle-même « La force dirigeante, le guide de la société, le noyau de son système politique et toutes les organisations étatiques et sociales est le parti communiste d'Urs. Le parti communiste existe pour le peuple et sert le peuple parce qu'il est armé de l'enseignement marxiste-léniniste. C'est cet armement de l'enseignement marxiste-léniniste, c'est-à-dire une dimension de cognitive, qui peut lui donner justement cette capacité de représentation et qui en fait le moteur de l'activité publique. Dès lors que la démocratie est l'expression d'un intérêt social déjà donné, qui est scientifiquement fondé, il n'y a plus de distinction autre que purement formelle entre démocratie directe et gouvernement représentatif. Le représentant est en effet alors pure icône de la classe, issu qu'il est d'un parti lui-même simple forme de cette classe. Et c'est un emboîtement de ces équivalences qui avait conduit Soljenitsyn à qualifier Staline d'égocrate. Commentant ce néologisme, Toudlefort a justement souligné que l'écrivain avait ainsi voulu suggérer que le personnage n'était pas intelligible s'il restait qualifié par les expressions usuelles d'autocrate, de dictateur ou de despote. Avec l'autocrate se réalisait à ses yeux fantastiquement l'unité d'une société purement humaine. Avec lui s'instituait le miroir parfait de l'un. Voilà ce que suggérait le mot égocrate. Non pas un maître qui gouverne seul, affranchi des lois, mais celui qui concentre en sa personne la puissance sociale et qui apparaît comme s'il n'avait rien en dehors de soi, comme s'il avait absorbé la substance même de la société, comme si, égo absolu, il pouvait indéfiniment se dilater sans rencontrer de distance dans les choses. Et même retranché au Kremlin, c'est à la société entière qu'il était conjoint. À la fois, Staline se présente et apparaît comme le génie par la vertu duquel l'État tient ensemble, existe. Le peuple est un, et comme le disait Soljenitsyn, il broie en nombre indéfini des ennemis. Et des hommes quelconques, en tant qu'individus, ne sont que des parties de ce un. Il peut même, ce résident du Kremlin, aller jusqu'à broyer ses propres agents. Il les broie même les plus fidèles, car c'est de cette façon-là qu'il montre qu'il est la seule source de la vérité. Et bien plus fort que Louis XIV, estimant qu'il incarnait l'État, Staline pouvait ainsi dire « la société, c'est moi ». Se trouvaient de la sorte simultanément résolus les deux problèmes de la figuration démocratique et des modes d'expression adéquats à la souveraineté du peuple. Car figurer le social ne recèle aucune difficulté quand une société ne présente plus de différences qu'il faudrait identifier pour les traduire. Le peuple, de son côté, règne sans conteste sous les espèces de masses supposées directement actives, tant à travers leurs représentants qu'à travers les multiples organisations qui les encadrent. Le représenté est alors censé pleinement vivre dans le représentant. La démocratie réelle peut en conséquence prétendre accomplir la démocratie formelle et transcender leur distinction initiale. Il est cependant significatif de constater que les dirigeants soviétiques avaient en même temps veiller à accomplir les promesses de la démocratie formelle et du mandat électoral, comme si ce formalisme restait considéré comme une sorte de preuve supplémentaire, une béquille nécessaire de ce qu'ils appelaient la démocratie réelle. Et une grande attention sera ainsi portée constamment à l'affichage de scores électoraux quasi unanimes, comme si les chiffres devaient, pour l'opinion extérieure, redoubler le fait de la consistance effective du peuple 1. Et le Parti communiste, simultanément, en Union soviétique, s'attachera à donner chair, sur le papier, à un type de mandat électoral complètement renouvelé, autant qu'à la recherche d'une correspondance sociologique entre représentants et représentés, pour permettre de donner consistance à l'idée de soviet qui reproduirait fidèlement l'image du pays. Et même dans la constitution stalinienne, le principe de révocabilité de l'élu sera organisé et garanti. L'URSS était certes présenté au premier chef comme ayant édifié un système qui donnait un contenu concret aux droits et aux libertés, puisque, disait-on, les travailleurs y disposaient d'imprimeries, de salles de réunion et d'autres facilités matérielles leur permettant d'être de véritables acteurs de la vie politique. Mais elle était aussi mise en avant dans le pays comme un ensemble qui mettait en pratique des principes jugés bafoués ailleurs d'un authentique gouvernement représentatif. On disait que les candidats étaient vraiment une sélection des meilleurs. On disait qu'ils étaient proches du peuple. On disait qu'il y avait beaucoup de réunions. On montre même dans un texte célèbre qu'il y a eu jusqu'à 82 millions de personnes qui ont participé à la discussion du programme du Parti communiste de l'Union soviétique, que 300 000 commissions ont fonctionné pour mettre en place la Constitution. C'était des réunions d'information. Mais il est frappant de voir à quel point on a voulu montrer que la quantité pouvait aussi se muer en qualité, au point que démocratie directe et gouvernement représentatif puissent prétendre se superposer parfaitement dans les faits. Marcel Cachin, fondateur du Parti communiste français, allait ainsi jusqu'à estimer, en une stupéfiante formule, qu'il s'agissait, je cite, « de la seule formule connue de représentation directe du prolétariat dans son ensemble ». Le fétichisme des formes et la prétention à leur dépassement allaient de pair dans la rhétorique soviétique, résolvant ainsi définitivement à leurs yeux toutes les apories constitutives du gouvernement démocratique. La séduction intellectuelle qu'a pu exercer ce modèle provient de cette extraordinaire capacité de la rhétorique à mêler la prétention à l'accomplissement des démocraties représentatives en même temps que sa négation radicale. En elle pouvait se lier un hyperformalisme et le culte d'une démocratie plus réelle. La vision communiste du politique entendait ainsi dessiner la perspective inédite d'un véritable rachat salvateur des formes de la démocratie grâce auxquelles les apories constituantes de la représentation retrouvaient leur résolution. Au-delà des multiples différences qui distinguaient les figures historiques du nazisme, du fascisme italien et du stalinisme, leurs formes étaient bien marquées par un même type de pathologie de la représentation incarnation à cet égard. Mais comment expliquer que cette représentation du pouvoir et de son chef incarné la société ait, à un moment du moins, recueilli l'adhésion, comme d'ailleurs la vision d'une égalité et homogénéité susceptible de revitaliser et même d'accomplir l'idéal démocratique? Il est essentiel de répondre à la question pour comprendre l'avènement des régimes totalitaires. Le phénomène n'est pas simple à expliquer. Il est certes en partie l'indicateur de l'intensité des déceptions et des désenchantements de l'époque, correspondant notamment à une vraie attente de représentation. Mais il s'enracine plus profondément, me semble-t-il, dans deux phénomènes. L'efficacité sensible de la projection de l'idée de souveraineté collective dans celle de volonté d'un individu, d'une part, et l'efficacité de l'idéologie à faire d'un monde factice le monde réel, d'autre part. La représentation-incarnation donne d'abord chair à la promesse d'une volonté effective succédant à l'amertume d'un sentiment d'impuissance. Le chef accomplissait le principe représentatif-incarnatif en proposant de donner son plein effet à la puissance de la collectivité, la souveraineté devenant, à travers lui, immédiatement active. Un décisionnisme exacerbé et un sentiment démocratique de puissance collective pouvaient ainsi paraître coïncider en lui. La mise en scène de cette volonté faite chair sera, par ailleurs, au cœur de la propagande du régime. Qu'on se rappelle, par exemple, le titre donné par Leni Riefenstahl à son documentaire réalisé sur le congrès du Parti national socialiste de 1934, qui avait pour titre « Le triomphe de la volonté ». Et le triomphe de la volonté, c'était le face-à-face d'un chef et des masses. Il y a aussi une dimension d'ordre psychologique à l'adhésion à cette croyance. Elle tient à l'effet à l'efficacité de l'effet de polarisation sur la volonté d'un seul, renvoyant au vieil imaginaire du monde royal. Voilà ce que disait un des théoriciens du régime sur cette efficacité de la projection de volonté. Il disait « Une volonté sans frein et sans loi interne se détruit finalement elle-même. La libre subordination à la volonté d'un chef, au contraire, en donnant à la volonté individuelle un but nettement marqué, en multiplie l'efficacité. » Et il va jusqu'à dire « Le dressage militaire, si diffamé, a une signification psychologique trop profonde pour que les critiques libéraux et marxistes aient pu l'apercevoir. » L'action de propagande du Parti national-socialiste, qui se concevait comme le corps de la guidance en charge de l'État et du peuple, a, dans cette entreprise de projection des ambitions, mis en permanence en scène cet effet de volonté. Et les mêmes mécanismes étaient activés dans l'URSS de Staline. L'asservissement des individus était supposé être sublimé et racheté par le verbe créateur de l'égocrate. Mais l'idéologie a joué aussi un rôle essentiel dans l'adhésion des populations, sur un mode lumineusement mis à jour par Hannah Arendt. Dans ses origines du totalitarisme, elle a ainsi souligné comment le détachement du monde, prenant source dans les formes de déliaison et de dénationalisation des démocraties dont nous avons parlé, avait poussé les masses à fuir aussi la facticité du monde réel. Avait poussé les masses à fuir cette facticité avec ses pesanteurs et ses contradictions et l'avait rendu prête à se réfugier dans la confortable cohérence apparente d'un monde fictif. Voilà ce qu'elle notait. La force de la propagande totalitaire repose sur sa capacité à couper les masses du monde réel. Masses qui se trouvaient de la sorte réintégrées dans un univers dans lequel tout semblait simple et transparent. Apparente rationalité d'un monde fictif, beaucoup plus séduisante que la complication du monde réel. Elle donnait en effet la satisfaction que la société et l'histoire puissent se métamorphoser avec lui en objet intégralement manipulable et maîtrisable par la volonté de ceux qui détiennent les clés de son déchiffrement. La propagande du mouvement totalitaire, concluait Arendt sur ce point, sert à émanciper la pensée de l'expérience et de la réalité. Elle s'efforce toujours d'injecter une signification secrète à chaque événement public et tangible et de faire soupçonner une intention secrète derrière tout acte politique public. Ce monde fictif était ainsi sans extériorité possible, jamais exposé au démenti, ayant réponse à toutes les critiques, inaccessible au contrôle de l'expérience par les individus. Ce mécanisme de production idéologique du monde a d'ailleurs aussi eu un vecteur proprement sociologique, interprétable en termes de sociologie des organisations. Dans son maître livre, Ostrogorski, que je citais tout à l'heure, avait bien montré comment les machines partisanes produisaient du conformisme, l'orthodoxie politique étant la clé de leur bon fonctionnement. Pourquoi ? Car cette orthodoxie permettait de fluidifier la gestion du parti en écartant les voix discordantes au nom d'une commune raison sociale. Et à la même époque, un autre observateur des sociétés politiques, Augustin Cochin, avait des sociétés politiques de la période révolutionnaire en France, c'est un disciple de Taine, avait démonté le mécanisme qui conduisait ce qu'il appelait les gens de parole à l'emporter sur les gens d'œuvre, c'est-à-dire les idéologues à l'emporter sur les chefs pratiques. Ce qu'il qualifiait sociologiquement d'une loi de triage des organisations, qui conduisait, selon lui, les organisations politiques à se couper toujours plus de la réalité. Un tel mécanisme, avait-il souligné dans une formule saisissante, élimine le réel dans l'esprit au lieu de réduire l'inintelligible dans l'objet. Effectivement, éliminer le réel dans l'esprit au lieu de réduire l'inintelligible dans l'objet, c'était le grand mécanisme intellectuel, je dirais, de l'idéologie totalitaire. Et cette loi des organisations avait décuplé ses effets dans les organisations totalitaires, le bâton de la répression accroissant de façon spectaculaire les conditions mécaniques de production de l'esprit d'orthodoxie. Si les régimes totalitaires ont donné à l'idée de représentation-incarnation une formulation exacerbée, cette forme de ressurgissement du vieux dans le neuf a une histoire beaucoup plus longue, en fait. Et la formule « homme-peuple » a ainsi d'ailleurs été utilisée dès les années 1830 à propos de Napoléon. Cette formule « homme-peuple » forme même le titre d'une brochure saint-simonienne de 1832. Et dans plusieurs de ses chansons, Béranger présentera de son côté l'empereur comme un héros proche des gens, familier de leur quotidien, attentif à leurs préoccupations. Un très bon observateur de la France de l'époque, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous conseille de les lire, c'est Heine, avait noté dans Lutèce, en 1840, que l'on se révérait souvent à Napoléon dans les milieux populaires en parlant simplement de l'homme au singulier. Et au début du XXe siècle, Léon Blois le présentera dans L'âme de Napoléon, 1912, comme l'équivalent d'une nouvelle figure christique incarnant l'avenir d'une société qu'il était venu racheter de ses errements. Et le neveu se glissera à sa façon, c'est-à-dire sur un mode mineur, dans les habits de ce mythe d'un représentant qui soit en même temps chair et volonté du monde. Et il exploitera de façon systématique. L'empereur n'est pas un homme, c'est un peuple, laissera ainsi dire de lui cet homme. C'est une formule de Laguéronnière, qui sera un de ses principaux théoriciens du régime, qui voulait par là montrer que son ambition était d'incarner le pays. Et Persigny parlait de lui comme d'un élu de la démocratie qui était devenu un homme-peuple. Il reprenait cette formule. Je ne sais pas si c'est l'héritage saint-simonien qui a joué là dans l'utilisation de ce qualificatif. Il n'y avait plus dès lors de distance à effacer ou à redouter entre représentants et représentés, ces derniers s'abîmant parfaitement dans la figure du premier. Napoléon III ne faisait là d'ailleurs que reprendre un dispositif mis en scène par son oncle, mais il le théorisera et lui donnera du même coup sa pleine ampleur. Depuis ses rêveries politiques et ses idées napoléoniennes, le futur empereur n'avait ainsi cessé de répéter qu'il fallait un chef pour incarner la volonté populaire, ne jugeant la souveraineté du peuple pleinement accomplie que si elle prenait effectivement corps dans un homme à la fois puissant et pleinement responsable. Il notait, dans ses idées napoléoniennes, « l'aristocratie n'a pas besoin de chef, tandis que la nature de la démocratie est de se personnifier dans un homme ». C'est une idée qu'il n'a cessé d'exposer sous de multiples formes, jusqu'à la mettre au cœur de sa monumentale histoire de Jules César, alors qu'il était très occupé, enfin il faisait aider d'un nègre bien sûr, qu'il avait tenu à rédiger dans deux gros volumes. La démocratie confiante et passionnée, notait-il dans cette histoire de Jules César, croit toujours ses intérêts mieux représentés par un seul que par un corps politique. Il est d'ailleurs significatif de voir que l'appréhension classique du grand homme s'était effacé au XIXe siècle. L'homme exceptionnel, en tant que doté de talents spéciaux et paré de vertus individuelles admirables, purement qualifié par la distinction, a alors cédé la place à un nouveau type d'éminence, celle qui est caractérisée par une puissance d'incarnation. Le grand homme, écrivait Victor Cousin à ce nouveau sens, n'est point une créature arbitraire qui puisse être ou n'être pas. C'est le représentant plus ou moins accompli que tout un grand peuple se suscite. Il n'est pas seulement un individu. Il pouvait d'ailleurs très bien être dans cette mesure qu'un homme quelconque, pourvu qu'il possédât cette capacité. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que cette dimension d'abîme du représentant dans le représenté avait déjà été fortement présente au printemps 1848 en France, comme si la dissymétrie introduite par le moment électoral se trouvait de la sorte compensée. Et c'est Lamartine qui s'était fait le héros de cette vision. Il parlait ainsi de l'élu du peuple, je le cite, comme n'étant rien d'autre que sa personnification même. Il s'était lui-même présenté à Mâcon devant ses électeurs comme n'étant voué qu'à s'effacer et à disparaître de telle sorte, leur disait-il, que ses électeurs avaient élevé avec lui le nom d'un simple citoyen à la hauteur d'un principe. Donc le principe et l'individu s'étaient superposés en lui. Un certain nombre d'analystes ont d'ailleurs remarqué que les grands chefs totalitaires du XXe siècle ont de leur côté d'autant plus pu légitimer le caractère exorbitant de leur pouvoir qu'ils étaient des hommes sans qualité, issus de la masse, pouvant de la sorte prétendre n'en être que les instruments, n'étant que la forme visible et historique d'un pouvoir de la société sur elles-mêmes, sorte d'icône valorisante de la multitude dont ils étaient eux-mêmes issus. Et c'est l'obscurité de leur origine qui était le gage du caractère démocratique de la toute-puissance. Cela me fait rappeler ce qui était un grand débat mené par Girardin au moment où on prévoyait l'élection du président de la République en 1851 au suffrage universel, où il disait « le vrai candidat de la démocratie devrait s'appeler multitude ». Et Napoléon III pouvait, quant à lui, d'autant plus se présenter et se prétendre homme-peuple qu'il cumulait à la fois une légitimité procédurale issue des mécanismes liés au plébiscite, quasi unanime, et une légitimité substantielle procédant d'une représentation-incarnation. Les leaders populistes latino-américains du XXe siècle ont aussi repris la formule « Je ne suis pas un homme, je suis un peuple ». Ces mots, souvent répétés, du leader colombien des années 1930-1940, Jorge Eliécer Gaitán, ont donné le ton au populisme ultérieur sur tout le continent. Le profil du personnage, Gaitán, mérite d'ailleurs qu'on s'y arrête un peu. Il était étudiant à Rome en 1926-1927. Il effectuera sa thèse avec Enrico Ferri, un célèbre criminologue passé du socialisme au fascisme. Il deviendra le protégé de ce Enrico Ferri. Et Gaitán assistera à plusieurs reprises à des meetings de Mussolini. Il se dira impressionné par la capacité de ce dernier à dominer, à manœuvrer l'énergie d'une foule. Il étudiera même minutieusement, prenant beaucoup de notes, la gestuelle du Duce et aussi la manière dont il utilisait les variations des intonations de sa voix pour maintenir l'attention de son auditoire. Les techniques qu'il reproduira dans son action politique en Colombie. Candidat du peuple, c'est ainsi qu'il se proclamait aux élections présidentielles, Gaitán, qui est à la fois anticapitaliste et adversaire de l'oligarchie et en même temps conservateur, sera assassiné en 1948. Mais depuis cette date, son nom a symbolisé l'esprit du populisme latino-américain, dans son langage comme dans son engagement anti-oligarchique, avec toutes ses ambiguïtés également. Il sera d'ailleurs admiré par Castro autant que par Perón. Perón qui entendra lui aussi se faire homme-peuple et parlera significativement de dépersonnalisation pour qualifier les desseins que la Révolution avait incarnés en lui, son individualité étant supposée s'abîmer dans celle des Argentins. Fusion dont Eva Perón se fera également l'interprète et la gardienne, allant même jusqu'à assurer que tout ce qui lui arrivait en tant qu'Evita, elle avait fait la théorie qu'il y avait à la fois en elle Eva et Evita. Eva était la compagne du président, la figure officielle, et Evita était la femme du peuple. Et qu'elle appartenait, Evita, au peuple. Alors que ses ennemis lui reprochaient, par exemple, pour la discréditer dans l'opinion, ses nombreux bijoux et la richesse de sa garde-robe, elle avait crânement rétorqué dans une réunion publique, suscitant les applaudissements de la foule, « Est-ce que nous, les pauvres, nous n'aurions pas autant que les riches le droit de porter des manteaux de fourrure et des colliers de perles ?» Tout était dans ce « nous ». Plus près de nous, lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2012 au Venezuela, Hugo Chavez, se référant explicitement à Gaitán, n'avait cessé de marteler la formule « Quand je vous vois, disait-il typiquement, foule rassemblée dans les meetings, quand vous me voyez, je le sens, quelque chose me dit, Chavez, tu n'es plus Chavez, tu es un peuple. Je ne suis plus effectivement moi, disait-il. Je suis un peuple et je suis vous. C'est ainsi que je le ressens, je me suis incarné en vous. Je l'ai dit et je le répète, nous sommes des millions de Chavez. Toi aussi tu es Chavez, femme vénézuélienne. Toi aussi tu es Chavez, soldat vénézuélien. Toi aussi tu es Chavez, pêcheur, agriculteur, paysan, commerçant. Parce que Chavez, ce n'est plus moi, Chavez, c'est tout un peuple. » Ces formulations sont dans la continuité donc de celles de Gaitán et elles caractérisent la rhétorique populiste latino-américaine. Et dans ce cas de figure, renaissait la vieille idée tout simplement d'une représentation miroir. Car si le leader est le peuple, c'est véritablement l'idée du miroir que l'on peut reprendre. Et vous vous souvenez que j'avais indiqué dans un des précédents séminaires que l'idée de la représentation sur un mode ancien, tel que l'avait défini Mirabeau, était justement la possibilité soit de l'échelle réduite, soit du miroir. Idée du miroir, d'ailleurs, qui, dans une sorte d'anecdote que le sous-commandant Marcos racontait, alors qu'on lui demandait qu'il y avait derrière son visage, pourquoi il mettait une cagoule, il avait répondu à un journaliste, « Si tu veux savoir qui est Marcos, prends un miroir. Le visage que tu verras est celui de Marcos, car Marcos, c'est toi femme, c'est toi homme, c'est toi indigène, paysan, soldat, étudiant. Nous sommes tous Marcos, tous un peuple insurgé. » Le problème que cette figure de la représentation miroir est qu'elle ne peut fonder un régime stable, parce que les institutions s'effacent dans ce cas devant le fait d'une exceptionnalité individuelle. Toujours Chavez, dans son discours d'investiture comme président de la République qui, en 1999, avait d'ailleurs dit à son auditoire « Aujourd'hui, je me convertis en votre instrument. Moi, j'existe à peine et j'accomplirai le mandat que vous m'aviez confié. Préparez-vous à gouverner. Ma vie, avait-il poursuivi, ne m'appartient pas. Ma vie appartient au peuple. S'il faut la donner, je suis disposé à la faire vivre pour que vive la patrie, pour que vive le peuple vénézuélien. Impossible de faire marche arrière. Ma vie est en jeu. » La mise en scène et la mise en forme de cette représentation-incarnation, dans le césarisme et dans le populisme, tout en présentant des caractères évidemment à chaque fois spécifiques, évidemment fort distincts de celles qu'elle revêtait dans les régimes totalitaires, participait bien cependant d'un même type de pathologie de la représentation. Et c'est là que l'opposition des figures et des formes, sur laquelle je reviendrai ultérieurement, est essentielle. C'est également vrai du modèle esquissé un moment pendant l'année 1794, par les Jacobins, mais cette fois sous les espèces d'une assemblée-peuple. Car à ce moment-là, c'est le dernier exemple que je pourrais prendre, la critique des dysfonctionnements du système représentatif avait bien conduit à voir dans l'identification du peuple au pouvoir la condition du plein accomplissement de la souveraineté. Et Robespierre, qui était connu pour avoir instruit en permanence le procès du despotisme représentatif, c'est une expression jacobine typique de 1792, avait inversé ensuite cette formule et légitimé son action en participant au contraire de l'idée qu'il y avait une fusion possible entre le peuple et cette convention, cette convention étant définie comme un simple, je le cite, « abrégé du peuple ». Et les montagnards iront jusqu'à noter dans cet esprit qu'ils constituaient eux-mêmes, je cite à nouveau, « le corps vivant de l'opinion publique ». Et les métaphores de type organicisme seront d'ailleurs continuellement présentes dans les textes politiques de la période. Le comité de salut public s'adressait par exemple au comité révolutionnaire en notant « Vous êtes comme les mains du corps politique dont la convention est la tête et dont nous sommes les yeux ». C'est donc grâce à une conception de la représentation-incarnation que pouvaient à leurs yeux être surmontés, eux aussi, les apories originaires du gouvernement représentatif. Robespierre, a-t-on justement noté, a mythiquement réconcilié de cette façon la démocratie directe et le principe représentatif, en s'installant tout en haut d'une pyramide d'équivalence dont sa parole garantissait, jour après jour, le maintien. Il était, lui, le peuple dans les sections, le peuple aux Jacobins, le peuple dans la représentation nationale. Et c'est cette transparence entre le peuple et tous les lieux où l'on parlait en son nom qu'il fallait en permanence, pour lui, instituer, contrôler, établir, comme la condition de légitimité du pouvoir. Et c'est ce qui lui a permis de lancer à la veille du 31 mai 1793 « J'invite le peuple à se mettre dans la Convention nationale en insurrection contre tous les députés corrompus. » Se mettre en insurrection à travers les représentants, c'est évidemment la formule la plus audacieuse pour parler de fusion entre les représentés et les représentants. Et au cours du débat constitutionnel de juin 1793, un ensemble de députés montagnards s'écrieront d'ailleurs en se tournant vers l'Assemblée, c'est là qu'est le peuple, en désignant les bancs sur lesquels ils étaient assis. C'est cette prétention à l'incarnation qui nourrira, c'est un épisode peu connu mais très intéressant, qui nourrira la rumeur selon laquelle Robespierre aurait voulu se faire roi. Cette rumeur selon laquelle Robespierre a voulu se faire roi, qui était analysée très longuement par Bronislav Bashko, dans un texte qui s'appelle Robespierre Roy ou Comment sortir de la terreur, publié dans son ouvrage Comment sortir de la terreur, est très intéressante, car cette rumeur montre qu'il y avait à l'époque une façon de ne pas comprendre qu'il y avait dans le monde moderne bien d'autres façons de faire ressurgir l'ancien dans le nouveau. Comme s'il eût fallu que Robespierre ait l'idée de se faire roi pour comprendre sa prétention à l'incarnation. Comme s'il n'y avait pas d'autre voie que d'agiter le spectre de l'antique figure du monarque pour penser la critique de la représentation incarnation et stopper, dans le cas d'espèce, la marche implacable de la terreur. Comme s'il était impossible de le faire à l'intérieur même d'une théorie de la démocratie. Un siècle plus tard, Gambetta dira qu'en France, tout bon démocrate doit être l'ennemi des personnalités excessives. Le problème est que cette vue prudentielle n'était pas véritablement fondée et argumentée. Elle reposait sur le rejet du Second Empire. Et on verra à nouveau des formules de même nature prononcées après mai 1958, quand les Républicains évoqueront le danger de dictature en évoquant la figure du général de Gaulle. Mais dans tous ces cas, c'est toujours des personnes qui ont été accusées de vouloir fomenter des coups d'État et jamais une figure pathologique de la démocratie à l'œuvre qui était analysée pour être correctement critiquée. On peut dire, là encore, que si l'âge des totalitarismes est derrière nous, la condition d'une figuration positive de la démocratie reste devant nous. Et même si la menace d'une représentation incarnation apparaît parfois moins forte, nous la voyons, elle aussi, encore périodiquement ressurgir.